bonjour à tout le monde. Alors on veut se réjouir pour cette journée, on veut se réjouir dans le Dieu de notre salut. Amen. Si tu as un Dieu et si tu crois que ton Dieu t'a sauvé, alors tu peux te réjouir. Et nous voulons nous réjouir aussi tout particulièrement pour, comme vous l'avez déjà entendu, hein, c'est pas un scoop, le baptême de notre frère Kevin. Alors, j'aurai quelques textes à vous proposer. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 28, et nous lirons à partir du verset 16, Matthieu 28. Si jamais, merci. Matthieu 28, je lis à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici donc un ordre bien précis que les disciples avaient reçu, un ordre d'aller en Galilée. Et si on regarde un petit peu avant ce qui s'est passé, cet ordre-là avait déjà été donné, si on voit dans Matthieu 28, verset 7, cet ordre avait déjà été donné aux deux femmes qui étaient parties tôt le matin au tombeau du Seigneur. Cet ordre avait été donné par un ange qui leur a dit ceci à ces deux femmes. « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. » Des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, les disciples avaient reçu déjà cet ordre d'aller en Galilée au travers d'un ange. Et puis, ces deux femmes, un tout petit peu plus loin, Matthieu 28, verset 10, vont encore rencontrer le Seigneur Jésus sur leur chemin du retour et entendre ce même ordre. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée et c'est là qu'ils me verront. » Donc, deuxième fois, et les disciples, même avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, avaient reçu également cette indication. Matthieu 26, je lis à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc, il y a quelque chose qui était en train de s'accomplir. Les disciples étaient dans une attente forte de pouvoir aller en Galilée et de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ parce que l'ordre avait été donné à plusieurs reprises de se rendre dans cet endroit-là. Et on peut s'imaginer, les disciples devaient être quand même dans une forme d'excitation assez forte, hein, parce que, voilà, ils devaient se poser des questions. Qu'allons-nous vivre en allant en Galilée? Le Seigneur nous a annoncé avant sa mort. Et puis maintenant, certaines personnes nous disent qu'il est ressuscité, qu'un ange leur est apparu, que Jésus même leur est apparu et leur a redit « Allez, allez, allez en Galilée ». Donc, quand les disciples et les personnes qui étaient là se sont mis en route pour aller en Galilée, on peut s'imaginer que ça devait discuter fort, hein, dans la troupe. On peut s'imaginer, certains se disaient, mais qu'est-ce qu'on va vivre là-bas? Est-ce que Dieu va instaurer le royaume des cieux tant attendu? Est-ce que Dieu va restaurer le royaume d'Israël? Ou bien est-ce que le Seigneur va nous prendre dans les airs et nous monterons à sa suite? Qu'allons-nous vivre? Et Les plus enflammés étaient en train de chanter et de proclamer « Maranatha, viens Seigneur, viens, Alléluia, gloire au grand roi ». Peut-être que Thomas, lui, était plus sceptique. Et puis, oh là là, non, alors moi je crois même pas qu'il est ressuscité. Hein, non, non, alors bon, moi je viens avec vous parce que vous partez un petit peu dans toutes les directions, mais moi j'ai besoin de voir pour croire. On peut s'imaginer peut-être même que Matthieu, qui était surnommé Lévi, pourquoi ? Parce qu'il connaissait bien les écrits de la loi et des prophètes, essayait de faire raisonner tout ce groupe d'une manière un peu plus posée et réfléchie. Bon, tout ceci, ce n'est que des hypothèses. Une chose est sûre, c'est que les disciples et la petite troupe qui accompagnait se sont bien mis en marche vers la montagne de Galilée et ils vont arriver à destination. Tout à coup, voilà qu'ils l'aperçoivent et ils se prosternent devant lui. Matthieu 28. Quand ils le virent, verset 17, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Hein, donc on voit que peut-être là, Thomas avait bel et bien causé plein de doutes sur tout le chemin, et puis avec ses doutes, ben, il a commencé aussi à impacter négativement certaines personnes dans cette façon de penser. Jésus s'approche d'eux et commence à les enseigner. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici donc les dernières instructions reçues de la part du Seigneur. Faire de toutes les nations des disciples, premier point. Deuxième point, les enseigner à observer la parole de Dieu, et troisième point, la promesse qu'il sera avec nous, pas certains jours, mais tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu est absent. Hein? Le Seigneur, sur son agenda, il a marqué chacun des jours, voilà, j'ai une rencontre avec mon enfant, je serai présent avec lui. Fidèlement, je serai à ses côtés, je marcherai avec lui. Faire de toutes les nations des disciples, c'est quand même un vaste programme. À vue humaine, c'est même impossible de le réaliser. C'est un mandat qui dépasse toute possibilité de l'homme. On peut s'imaginer au début, pour les disciples, faire de toutes les nations des disciples. Pour les premiers disciples, là, ils étaient plus que 11. Quel mandat ! Hein, attends Seigneur, là, vas-y mollo, là, on a déjà vécu des choses extraordinaires, là, on est déjà un peu tout chamboulé, puis là, tu nous donnes un ordre purée, hein, on va y aller comment ? Mais en fait, c'est pas si compliqué que cela. Faire de toutes les nations des disciples. Comment ? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser les gens qui croiront dans le nom du Seigneur Jésus, tout simplement. Ça commence personne après personne. Dieu rajoute fidèlement une personne après l'autre. Et ça dure depuis bientôt 2000 ans, hein, que année après année, jour après jour, seconde après seconde, parce que maintenant, combien de personnes viennent au Seigneur Jésus-Christ ? Peut-être qu'il y en a une par seconde, deux par seconde, trois par seconde, j'en sais rien. Hein, ça défile ces temps. Peut-être un peu moins chez nous, mais à d'autres régions, vous le savez, hein, il y a des réveils. Donc, nous sommes appelés à baptiser les personnes qui croiront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas encore la promesse de la restauration du royaume de Dieu, ni même du rétablissement du royaume d'Israël. Car les disciples avaient posé cette question à Jésus, et nous voyons cela en acte 1. Acte 1, je lis à partir du verset 6, acte 1. Acte 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Non, ce n'était pas encore le temps du rétablissement du royaume d'Israël. Et ce n'est pas à l'homme de connaître le temps fixé pour cela par la seule autorité du Père. Cela fait partie quelque part du mystère, des mystères de Dieu, comme en ce qui concerne le temps du retour du Seigneur. Matthieu 24, 36 nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et on peut voir que chaque fois que l'homme a cherché dans l'histoire de l'Église à savoir quand le Seigneur Jésus-Christ, cela a conduit à des catastrophes. Et chaque fois que l'homme aussi a voulu établir le royaume de Dieu sur cette terre, cela a conduit à la catastrophe. Et chaque fois que l'homme a voulu reconstruire Israël à la place de Dieu, cela aussi a conduit à des catastrophes. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire cela avec une force humaine, mais il nous a fait cette promesse de recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, vous le croyez, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et cette puissance-là, c'est quand même extraordinaire. Elle fait de nous des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Moi, pauvre mortel, moi qui suis qu'un grain de poussière dans cet univers, je peux devenir le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Extraordinaire, non? Extraordinaire qu'un jour, par notre témoignage, par nos paroles, par nos actes, par notre amour, par notre foi, d'autres personnes aussi vont venir à la connaissance du Fils de Dieu. C'est un mystère. C'est le mystère de la puissance du Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit qui agit en chacun d'entre nous et qui peut faire de nous une lettre vivante pour la gloire du Seigneur. D'ailleurs, annoncer l'Évangile est quelque chose de central dans l'Église. Et chaque fois que l'Église a mis de côté cette priorité dans l'histoire, mis de côté cette priorité de l'Évangile, elle s'est décentrée quelque part. Elle est passée à côté de ce mandat si important que le Seigneur nous a laissé d'aller faire des disciples dans toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus donc ne nous a pas envoyés simplement pour que les gens croient, mais Jésus nous a envoyés pour les baptiser, pour faire des disciples. Des disciples, c'est-à-dire des personnes qui vivent pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas simplement une foule de croyants qui diront comme ça, oui, je crois, et qu'on pourrait remplir toutes nos églises. Non, des disciples. Et un disciple, c'est quoi? Matthieu 16, verset 24, nous le dit. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même, c'est quelqu'un qui meurt à lui-même, afin de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est complètement impossible pour l'homme de suivre le Seigneur Jésus-Christ s'il n'est pas mort à lui-même. Romains 6, versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort. » Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ce que nous allons faire. Hein? Les eaux du baptême, c'est un symbole de la mort à soi-même. Et cette mort à soi-même, quand tu fais ce pas, quand tu as fait ce pas en te faisant baptiser, tu en étais convaincu que tu devais mourir à toi-même. Mais tu le sais bien, c'est quelque chose que tu dois le faire jour après jour. Si tu veux que Jésus-Christ vive en toi, si tu désires être son disciple, si tu désires le suivre, alors jour après jour, il faut mourir à toi-même. Il n'y a pas d'autre recette miracle, hein? Il n'y a pas une super onction à recevoir de je ne sais pas où qu'elle viendrait. Si tu n'es pas mort à toi-même, toute démarche suivante est complètement inutile. La mort à soi-même, c'est bien ce que symbolisent les eaux du baptême. Et c'est aussi un rappel pour chacun d'entre nous, si nous voulons que Christ règne dans nos cœurs, alors mourons à nous-mêmes. Et bien des combats, bien des luttes cessent le jour où nous redéposons simplement notre existence au pied de la croix et que nous laissons au Seigneur Jésus-Christ les règnes de notre existence. Peut-être vous l'avez remarqué, hein, et puis peut-être pour les plus anciens dans la foi, ils l'ont peut-être plus remarqué que les plus jeunes. Combien il est dur de mourir à soi-même. Des fois, on croit qu'on est mort, puis tout d'un coup, on réalise, « Oh, ah non, il y a encore un petit bout qui est vivant, là, ça bouge encore. Hein. » C'est quelque chose à faire jour après jour. Hein. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu t'es fait baptiser que voilà, tu en as fini avec ta vieille nature, que tu en as fini avec ta chair. Toute notre vie durant, notre vieille nature va chercher à revenir. Mais il y a une solution, c'est la croix. Et c'est simplement dire, « Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Je te dépose mon existence. » Et ce n'est plus moi qui règne, ce n'est pas moi qui tiens les cordes de ma vie, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que tu es la vie, la résurrection. Je sais que ce que tu fais avec moi, au travers de moi, c'est que grâce, c'est que œuvre bienheureuse, c'est que ce qu'on peut vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut plus nous, comment dire ça, nous remplir. Une vie qui est vraiment réussie, c'est une vie vécue dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous parle encore de cette mort. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. À partir du verset 11, 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas morts ailleurs. Nous sommes morts en Jésus-Christ afin de pouvoir revivre avec lui. C'est une promesse pour l'éternité, mais c'est une promesse aussi pour notre présent. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Et là, ici, si on prend la version de Martin, il est dit, si nous sommes morts, si nous souffrons avec lui, alors nous régnerons aussi avec lui. La Darby, elle dit, si nous souffrons, alors nous régnerons avec lui. Pourquoi c'est traduit comme ça dans la Martin et la Darby? Parce qu'en fait, dans ce verbe ici grec, il y a une idée non seulement de persévérer, mais d'endurer, de continuer, de conserver, de supporter. Et la vie de disciple, c'est une vie pas toute simple. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a pas promis la gloire ici sur cette terre. Il nous a promis des souffrances, il nous a promis des persécutions. Il nous a promis des temps difficiles. Pourquoi? Parce que le diable va par tous les moyens chercher à nous arrêter. Il va chercher à m'arrêter, il va chercher à t'arrêter, il va chercher à arrêter Kevin. Hein? c'est sûr. Mais si nous persévérons, si nous sommes prêts à souffrir avec le Seigneur, parce qu'une vie de disciple, c'est une vie de souffrance, bien sûr que ce n'est pas que ça. Hein? Mais Dieu, ici sur cette terre, il n'a pas prévu la gloire pour chacun d'entre nous. Mais il a prévu des fois des chemins qui sont difficiles. Mais si on ne se laisse pas arrêter, alors on verra le fruit de notre travail. Et si on laisse simplement la présence du Seigneur Jésus-Christ être en première place dans nos cœurs, alors les choses vont changer. Et même si tu passes par la maladie, même si tu passes par un temps difficile, même si tu passes peut-être par une déchirure sentimentale, ou que sais-je encore, hein, par la honte, parce que peut-être, on ne sait pas, mais tu peux perdre une entreprise, tu peux perdre la reconnaissance dans la famille, ou que sais-je encore. Si tu endures dans toutes ces choses-là, si tu gardes la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors tu régneras avec lui. Amen. C'est pas en vain si nous souffrons aujourd'hui en tant que disciples, parce qu'un jour nous verrons la gloire du roi. Et parce qu'on ne veut pas se laisser arrêter par les difficultés de la vie. On ne veut pas fixer notre regard sur notre nombril, hein, sur notre situation. On veut fixer les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est de là que vient notre délivrance. On ne va pas passer notre temps à nous lamenter, parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous et que son salut nous remplit de sa joie et que son salut nous donne la force d'aller encore de l'avant pour la gloire de son nom. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a deux choses différentes ici. Il y a le fait de le renier. Si on le renie, alors lui aussi nous reniera. Ça fait penser aux paroles, par exemple, de Luc 13, verset 25, qui dit, par rapport à cet enseignement d'entrer par la porte étroite et de voir certains des disciples dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» et Jésus de leur répondre « Je ne sais d'où vous êtes. » Ou encore d'autres passages bien connus aussi, où le Seigneur Jésus dira « Je ne vous connais pas. » Hein? On peut être disciple, mais si un jour on renie le Seigneur Jésus-Christ, si un jour on dit « Alors Seigneur, moi là je ne veux plus, c'est fini, c'est terminé. Hein? » Ça ne veut pas dire que le jour où on le dit c'est terminé, parce que le Seigneur il est fidèle, il vient nous rechercher. Mais si on met notre foi de côté, eh ben, le jugement appartient au Seigneur. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On est tous infidèles. On aura tous des moments, et Kevin aura des moments aussi dans sa vie de foi, où il sera infidèle, où il manquera de confiance dans le Seigneur, où il ne sera pas à 100%. Hein? Quand on charge nos batteries de Natel, c'est à 100%. Alors des jours, on est à 100% dans la confiance du Seigneur. On vit peut-être des choses même difficiles, on est à 100% dans la confiance. Et puis, voici que nous arrive trois fois rien et la confiance descend déjà. Hein? Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses. Mais les bontés du Seigneur se renouvellent jour après jour. Et Dieu nous renouvelle et nous permet, dans sa grâce, parce que ce n'est pas par nous hein, qu'on peut garder cette confiance dans le Seigneur, mais dans sa grâce, il nous renouvelle et nous permet de rester fortement attachés à lui afin que son nom soit glorifié dans nos existences. Amen. Donc, en conclusion, le baptême ne sauve pas hein, par lui-même, mais comme dit 1 Pierre 3, verset 21, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement que Kevin, ce matin, va prendre. Engagement non pas par ses propres forces, mais par la foi qu'il met dans son Seigneur. Et c'est pour chacun d'entre nous aussi l'occasion de renouveler notre engagement pour le Seigneur, de renouveler notre baptême, d'y penser ce matin. Et le baptême, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Et si nous sommes prêts à signer un tel contrat, c'est qu'alors nous sommes en accord avec ce contrat et ce qu'implique une vie de disciple pour notre vie. Mais de l'autre côté, c'est aussi que notre patron, c'est-à-dire Dieu, nous estime compétents pour ce poste. Ce matin, Kevin va signer un contrat avec son big boss. Il va dire « Oui, je veux m'engager pour le royaume de Dieu. Oui, je veux m'engager pour l'Église. Oui, je veux m'engager pour la cause de Jésus. Oui, je veux mourir à moi-même. » L'eau qui est là maintenant, symboliquement, bien sûr, je ne suis pas en train de dire les choses autrement, elle est plus propre maintenant qu'une fois qu'il sera fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il y a sa vieille nature qui est là et qui va symboliquement être morte dans les eaux du baptême, ensevelie avec le Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir revivre en lui. Et chaque fois, chaque matin que nous décidons de mourir à nous-mêmes, alors c'est comme si nous passons par ces eaux du baptême afin que, mort à nous-mêmes, nous puissions vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Quel mystère quand même extraordinaire que de pouvoir comprendre cela, que ce n'est pas plus compliqué que ça pour que le Seigneur Jésus règne en nous. Donc, Kevin, tu vas t'engager par les eaux du baptême à une vie de disciple et ce sera Jésus qui sera avec toi jour après jour, comme il l'a promis. Il va te guider et je peux te l'assurer et je pense que chacun ici présent parmi nous peuvent te l'assurer, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Il n'y a rien de mieux que de laisser sa vie au pied de la croix. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de plus épanouissant et on peut faire le tour du monde, chercher les plus grandes philosophies, mais il n'y a rien de mieux que mourir à soi-même afin de pouvoir revivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a tant de promesses pour son présent, mais il y a aussi tant de promesses pour le futur. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'avoir les yeux ouverts là-dessus et de se réjouir dans le Dieu de notre salut. Que le Seigneur te bénisse pour ce pas de foi que tu fais ce matin, pour le courage que tu as d'affronter l'eau froide. Hein. On a fait exprès, on a mis des gros glaçons. Bon, vous ne pouvez pas voir, ils ont tout fondu. Non, on rigole. Hein. L'eau, je ne sais pas combien elle a une vingtaine de degrés. Donc, mais c'est super, en tout cas, de pouvoir t'accompagner dans ce temps-là. Et je remercie le Seigneur d'avoir pu partager ces moments d'enseignement aussi avec toi. Que Dieu vraiment bénisse chaque jour de ton existence. Amen. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Donc, il faut que tu enfiles ta tunique. Alors, on lui laissera encore le temps aussi de faire un témoignage. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce geste aujourd'hui? Et pourquoi il le fait? Parce que ce n'est pas poussé par sa famille. Ce n'est pas poussé par les gens de l'Église qu'il le fait, mais c'est par une conviction personnelle qu'il entreprend de passer par les eaux du baptême. Alors, on te laisse la parole.
Bonjour à tous. Alors, mon discours, il ne va pas être très long. Mon parcours, il a commencé quand j'étais en Érythrée, quand j'étais petit. Et je suis venu en Suisse après mon père, parce qu'il était déjà venu ici à cause des problèmes qu'il y avait en Érythrée. Et quand on est venu ici, le plus difficile, c'était la langue. Parce que les gens qui étaient différents, c'était pas la même chose que dans mon pays, je connaissais personne. Ça va encore, on pouvait encore supporter. Mais le plus difficile, c'était surtout la langue. Parce que quand tu parles pas la langue, c'est vraiment difficile à te faire comprendre ou à t'exprimer. Et quand j'étais en Érythrée, je croyais en Dieu, j'ai toujours été croyant. Mais le truc, c'est que j'étais catholique. Donc, on priait plus vers Marie, à tous les apôtres et tout, qu'à Jésus-Christ. Donc, il y avait les statues de Marie, on devait se mettre à genoux, prier devant Marie et tout. Et quand je suis arrivé ici, c'était différent parce que personne ne priait vers Marie et tout. Et pour moi, ça a été un choc un peu. Et avec l'enseignement de tous les gens qui étaient ici, qui nous ont aidés, j'ai appris à connaître Jésus et à y croire. Si je me fais baptiser aujourd'hui, C'est parce que j'ai eu, pas une révélation, mais comme une révélation de Dieu, qui m'a dit que c'était le moment que je me fasse baptiser aujourd'hui. Et il a insisté sur le mot baptiser, parce qu'au début, c'était mes parents qui me disaient qu'il fallait que je me fasse baptiser, mais je ne voulais pas me faire baptiser, parce que comme c'est mes parents qui me le disaient, je ne pensais pas que c'était important, parce que ça vient des parents, et c'était leur choix et pas mon choix. Et j'ai attendu un petit moment, et il y a plusieurs personnes d'autres qui me disaient, ouais, que je ne connaissais pas, qui me disaient, Kevin, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu te fasses baptiser. Et avec le temps, j'ai prié, et je pense que c'est la bonne décision que j'ai prise de me faire baptiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais baptiser ici. Et je viens de me rendre compte que c'est ici que j'ai connu Jésus-Christ. Enfin, c'est ici que j'ai, dans cette église, que j'ai connu Jésus-Christ. Et j'aimerais vous remercier tous, enfin, vous m'avez tous vu grandir. Et je voulais tous vous remercier pour ça. Voilà. Amen.